Avant d'écouter le texte biblique qui est le chapitre 4 du livre d'Esther, vous étiez peut-être là il y a quelques dimanches quand j'ai démarré le début de ce livre, je souhaite vous rappeler le début de cette histoire. Dans le premier chapitre, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Xerxès, qui est le roi de Perse, dans l'actuel Liban, est riche et orgueilleux. Un jour, la reine refuse de se présenter à lui et de rage, il la renvoie. Au deuxième chapitre, le roi doit se trouver une autre reine. Après une présentation d'au moins 1000 jeunes filles pendant toute une année, il tombe amoureux d'Esther, qui est très belle, précise le texte. Esther est juive, fille adoptive de Mardochée, juif aussi. Mardochée tient une place officielle au palais royal. Il demande à Esther de taire son identité juive pour pouvoir tout de même être reine. À la fin du chapitre 2, Mardochée va déjouer un complot contre le roi Xerxès et lui éviter ainsi la mort. Au chapitre 3, un autre personnage fait son entrée, Aman, premier ministre du roi. Jaloux de Mardochée, qui est aimé du roi, et afin de se débarrasser de lui, Aman fait écrire au roi un décret d'extermination de tout le peuple juif. Et nous arrivons au chapitre 4. C'est John qui va nous en faire la lecture.
Mardochée apprit ce qui s'était passé. Il déchira ses vêtements, se vêtit d'une étoffe de deuil et répandit de la cendre sur sa tête. Il parcourut la ville et poussant de grands cris de douleur. Arrivé devant la porte du palais royal, il s'arrêta, car personne n'avait le droit d'y pénétrer en tenue de deuil. Dans chaque province du royaume, partout où le décret royal était parvenu, les Juifs furent plongés dans un grand accablement. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup d'entre eux revêtaient des étoffes de deuil et se coucher sur de la cendre. Les servantes et les eunuques de la reine Esther vinrent lui raconter ce qu'ils avaient vu, et elle trembla de tout son corps. Elle envoyait des vêtements pour que Mardochée enlève sa tenue de deuil, mais il les refusa. Alors Esther fit appeler Hadak, un des eunuques que le roi avait mis à son service, et elle l'envoya demander à Mardochée ce qui se passait et pourquoi il agissait ainsi. Hadak alla trouver Mardochée sur la place située devant la porte du palais. Mardochée le mit au courant des événements. Il lui parla en particulier de la somme d'argent que Haman avait promis de verser au trésor royal en vue de faire disparaître tous les Juifs. Il lui donna le texte du décret publié à Suse en vue de l'extermination des Juifs. Il lui demanda de renseigner Esther sur la situation en lui montrant ce texte. Hadak devait aussi lui ordonner de se rendre auprès du roi pour implorer sa grâce et plaider la cause de son peuple. Hadak informa Esther de ce qu'avait dit Mardochée Esther lui ordonna de rapporter la réponse suivante à Mardoché. Tout le monde des serviteurs du roi, aux habitants des provinces du royaume, connaît la loi qui s'applique à toute personne, homme ou femme, qui se rend auprès du roi par la cour intérieure sans avoir été convoquée. Cette personne doit mourir. Elle n'a la vie sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. En ce qui me concerne, je n'ai pas été invité à me rendre auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque Mardoché reçut cette réponse d'Esther, il lui fit dire « N'espère pas échapper. Toi seul, au sort des Juifs, parce que tu vis dans le palais, si tu te tais dans des circonstances présentes, penses-tu que les Juifs seront sauvés en recevant de l'aide ailleurs? Non, toi et ta famille, vous mourrez. Mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. » Alors Esther envoya ce message à Mardoché. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et observer un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous ferons de même. Puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. » Alors Mardoché partit et agit comme Esther le lui avait ordonné.
Je vous invite à rester assis pour chanter le spontané des lectures « Souffle du Dieu vivant ».
Souffle du Dieu vivant,
enfant puis adolescente, je passais les mois de juillet en camp dans les Cévennes. Une année, pendant les descentes en canoë ou en kayak dans les gorges du Tarn, nous pouvions profiter de trous d'eau pour nous baigner. Certains gravissaient la paroi jusqu'à 8 mètres et sautaient. Il y avait bien sûr des replis pour sauter d'un peu moins haut, mais tout là-haut, près du ciel, il y avait le 8 mètres pour les plus courageux. D'en bas, je regardais admirative ces sauts de l'ange et je me disais que oui, j'aimerais moi aussi pouvoir y arriver. Bien sûr, aucune obligation, mais comme un petit challenge intérieur. Et puis, je me suis décidée. Gravir prudemment la paroi, ne pas trop regarder en bas, se mettre en position, jeter un coup d'œil aux autres, pas bien grands, les entendre m'encourager. Et puis, voir ceux de derrière déjà me rejoindre et m'empêcher de redescendre, me dire que ça y est, je ne pouvais plus reculer, et puis qu'après, je serais tellement fière de l'avoir fait, respirer, fermer les yeux, les rouvrir, sauter. Que de moments semblables à celui-là pendant notre vie, à des âges et des degrés différents, mais toujours des moments de grandes décisions, où l'on se jette dans l'inconnu, sans savoir vraiment ce qui nous attend, ou parfois en ne le sachant que trop, mais sans avoir d'autre solution. Quand je pousse pour la première fois la porte de mon nouvel emploi, quand je m'engage en couple, quand après une rupture difficile, je choisis de changer de direction pour ma vie, quand je prends la décision d'une intervention chirurgicale en connaissant les possibles conséquences. Toutes ces grandes étapes de la vie, plus ou moins heureuses, sont des temps importants de décision, où notre vie, en effet, peut changer de direction. Et au milieu de ces étapes, où plaçons-nous notre Dieu? Les réponses sont variées. Certains entendent parfaitement sa voix et la suivent à la lettre. D'autres interprètent ce qui les entoure comme des signes, des balises indiquant le bon chemin. Certains encore se désolent de ne rien entendre malgré leurs appels incessants. D'autres laissent leur vie aller au hasard. D'autres encore se passent de Dieu et disent guider eux-mêmes leur vie. Parmi toutes ces positions, certains encore sentent une présence discrète tout au long de leur vie, comme Job, cet homme biblique qui se bat avec Dieu et dit « Un message m'est parvenu en secret ». Mon oreille aperçut un très léger murmure. Une absence mystérieusement présente qui guide la vie. Et c'est le cas pour nos deux héros du jour, Mardochée et Esther. Le texte que John a lu pour nous ne nous rapporte aucune prière, aucun échange direct ou indirect de l'un ou de l'autre avec Dieu. Dieu ne se manifeste pas dans un buisson ardent, comme face à Moïse. Absence, mystérieusement présence. Esther et Mardochée vivent dans un monde étrange, machiavélique, où l'on peut décider d'anéantir un peuple entier en se posant la question du manque à gagner au niveau des impôts. Alors au départ, ils choisissent de taire l'identité juive d'Esther, et cela va sourire à son ascension et à sa place de reine. Ils appliquent un silence avisé qui lui permet en effet d'escalader les marches du pouvoir. Dans le texte, nous sentons un père attentif, inquiet même pour Esther. Nous le voyons faire les 100 pas devant le palais, où Esther est reine, essayant de glaner ici et là quelques informations sur sa vie. Un souci tout paternel et en même temps une fermeté, l'interdiction formelle de révéler son origine. Cacher ou dire son identité. Et pour nous-mêmes, que faisons-nous pour assumer notre identité ? Avons-nous un avantage parfois à ne pas dire que nous sommes des chrétiens, à rester discrets sur les questions de foi? À l'époque de la rédaction du livre d'Esther, une tendance chez les Juifs était l'assimilation à la culture de l'époque et à ses coutumes. Et il y avait une forte tension de cette tendance avec des courants beaucoup plus traditionnels qui souhaitaient, eux, garder leurs coutumes. Et nous, chrétiens, avons-nous tendance à nous assimiler à la culture ambiante? Ou bien résistons-nous et savons-nous partager nos convictions? À la dernière séance de catéchisme, nous avons parlé de Marie Durand. Née il y a un peu plus de 300 ans, protestante durant les persécutions en France, elle a été arrêtée par les dragons du roi Louis XIV, au seul motif que son frère, Pierre, était pasteur. Marie est restée enfermée pendant 38 ans, dans la tour de Constance à Aigues-Mortes, pour avoir refusé d'abjurer sa foi. Cette forme de résistance peut paraître presque absurde à nos yeux. Nous qui aujourd'hui partageons tant de choses avec nos frères et sœurs catholiques. Mais la résistance de Marie Durand, l'attitude d'Esther nous font réfléchir. Est-ce que j'ai aujourd'hui des avantages à rester discret sur ma foi? Ou est-ce que je serai capable de l'affirmer au risque, si ce n'est de ma vie, bien sûr, mais de moquerie, de rejet, de perte d'amis? Dans la suite de notre livre d'Esther, au chapitre 3, le premier ministre véreux du roi, Aman, de jalousie vis-à-vis de Mardoché, persuade le roi d'exterminer tout le peuple juif. Encore une fois, cette décision peut paraître complètement incroyable, démesurée. Mais pourtant, nous le savons tous, l'histoire s'est répétée. Rejeté à cause de sa différence, a toujours existé et existe encore. Nationalité, couleur de peau, religion, statut social. Plus ou moins ouvertement ou sournoisement, les discriminations sont toujours bien présentes. Sachant qu'il est facile de pointer du doigt l'attitude de l'autre, mais plus difficile de discerner en nous notre propre tendance à rejeter l'autre. Nous le savons, le différent dérange et nous fait peur. Mais c'est souvent en apprenant à le connaître que nous pouvons alors le respecter. Et encore une fois, cette histoire d'Esther nous interroge. Laissons-nous agir les Aman en nous. Dans la décision que je dois prendre, celle de me jeter à l'eau, il y a aussi la question du moment adéquat pour le faire. Ce serait bien d'avoir comme Esther un Mardoché pas très loin qui nous guiderait. Mardoché suit les pas d'Esther vers sa montée au trône. Littéralement, il la suit. Il se tient à la porte du palais, mais aussi symboliquement à la porte de l'identité d'Esther. Il en connaît à la fois l'extérieur, la façade de la reine, femme du roi perse, et l'intérieur, jeune fille de déporté juif. Mardoché connaît ce que l'on appelle en hébreu la nefesh, c'est-à-dire sa personnalité dans son intégralité. Mardoché est un compagnon de route d'Esther sur le chemin de son accomplissement. Mardoché aussi qui n'hésite pas à être dur avec elle, en ne lui laissant pas le choix. Elle devra aller voir le roi au péril de sa vie. Et finalement, Esther prend les choses en main et décide d'aller à l'endroit où Dieu semble la vouloir. Elle va rejoindre la cour intérieure du palais pour trouver le roi et parallèlement trouver sa propre identité. Esther ainsi se lève et réconcilie dans la prière et le jeûne son extériorité et son intériorité. La reine de l'Empire perse rejoint son identité de femme juive. Elle prend les commandes de sa vie et de son peuple. Mardoché n'a donc plus besoin de se tenir à la porte. Et dans un renversement émouvant, Esther lui demande de s'en écarter en l'envoyant près du peuple. Dans ce chapitre 4, Esther illustre le courage d'être soi-même. En conflit de conscience entre risquer sa vie pour son peuple ou rester cachée dans la cour, elle décide sous l'impulsion de Mardoché de sauver son peuple en révélant au roi son identité, alors qu'elle l'avait jusque-là cachée. Et pour nous, quel est ce Père qui veille sur nos routes et nous permet d'affirmer qui nous sommes profondément? Car finalement, au bout de ce chemin du courage d'être, qui est le titre d'un livre du théologien protestant Paul Tillich, s'il y a toujours de l'appréhension au départ, il y a rarement des regrets à l'arrivée. Et souvent même une grande satisfaction d'avoir été fidèle à soi-même et à son Dieu sauveur. Voici ce matin pour nous la bonne nouvelle d'Esther. Et tout récemment, vous l'avez peut-être entendu, c'est une autre Esther de notre Église protestante unie qui a reçu le prix Nobel d'économie pour ses recherches, pour lutter contre la pauvreté. Encore un beau témoignage dans la société. Dieu est les compagnons de ma vie. Lui seul me connaît parfaitement. Lui seul peut guider mes choix de vie et mes décisions, car il se tient à ma porte et m'aide à me révéler et à me tenir debout. Notre Dieu, parce qu'il nous a tout donné en Jésus-Christ, nous permet de nous assumer tels que nous sommes, pécheurs et pardonnés. Dieu en Jésus-Christ nous donne le courage d'être. Il nous donne la vie, la vraie vie. Amen.